Je vous invite à prendre vos Bibles au psaume 3 pour le lire ensemble. Psaume 3. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Je vous propose de prier. Père, merci car tu entends nos cœurs en cet instant, en ce lieu, tu es là, qui s'ouvre à toi. Et je prie, Père, que tu utilises ce temps de prédication pour que nos cœurs puissent entendre ta voix. Merci pour ce que tu vas faire pendant ce moment pour glorifier ton nom. À toi toute la gloire. Amen. On voit dans ce psaume la vie normale, le mal est partout. Laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez un jour dans une impasse, que tout part en vrille tout d'un coup, avez-vous un ami ou une personne proche à qui vous vous confierez? Qui est-ce que vous iriez voir? Vous pensez peut-être à quelqu'un, peut-être un membre de votre famille, un parent, un frère, un ami. C'est dans ces moments-là, dans les moments les plus difficiles, que l'on sait vraiment si les personnes en qui on place notre confiance sont vraiment dignes de confiance, n'est-ce pas? Quand il y a un problème. Et d'autant plus si c'est vous ou moi qui sommes la cause du problème. C'est nous qui avons provoqué la catastrophe. Je me rappelle de ça il y a à peu près 10 ans. Je devais être tout jeune permis et j'allais à l'église pour faire le premier service que j'ai fait à l'église. C'était ce que faisait Denis ce matin. Je faisais la sono. Mais mon père m'avait prêté une voiture qu'il avait toujours rêvé d'avoir, une Renault Mégane décapotable. Alors, c'était quelque chose pour lui parce qu'il était menuisier, donc un petit budget, mais il avait acheté cette voiture pour accomplir son rêve quelque part, avoir une décapotable. Et j'étais un peu en retard ce matin-là et j'ai parcouru les 30 km de campagne par matin frais et route mouillée à une vitesse un peu trop élevée. Et à plusieurs fois, j'ai manqué de déraper. Bon, la voiture a dérapé, mais grâce à Dieu, je ne suis pas sorti de la route sur les 30 km de ma campagne parce que sinon, ça aurait été plus grave que ce que ça n'a été. Mais en arrivant à Amiens, j'habitais à Amiens, et sur le premier rond-point, j'ai appuyé un peu trop vite en tournant et la voiture a roulé sur une bande blanche. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Les pneus sont venus s'enfoncer dans sur le bord du trottoir, cassant la direction, et la voiture s'est enfoncée dans une barrière en béton qui avait 20 cm de hauteur. En s'engouffrant dans le moteur et condamnant la belle Renault Mégane décapotable de mon père à la casse. Et à ce moment-là, j'ai confiance en mon père. Hein. J'ai vraiment confiance en mon père, mais je vous avoue que j'ai un peu tremblé. Je n'étais pas vraiment sûr de sa réaction quand je l'ai appelé. Et d'une toute petite erreur, est née une sorte de cascade de catastrophe, si on veut. Je me suis mis à courir parce qu'il fallait que j'aille à l'église, donc j'ai traversé la ville en courant pour aller faire mon service quand même. Et j'ai appelé mon père, je vous dirai plus tard la réaction qu'il a eue, en tremblant. Mais de cette seule erreur, quelque part, s'est entraîné le fait de m'être levé trop tard, une cascade de malheur. Et dans ces moments-là, vers qui se confier? Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est à peu près une chose similaire qui est en train d'arriver à David. David, ce roi qui, il y a plusieurs milliers d'années, régnait sur Jérusalem, en une journée, à cause d'une erreur qu'il avait faite, se retrouve dans cette situation absolument catastrophique. tout ça à cause d'une seule erreur. Et dans des proportions bien plus dramatiques, ce qui était en sort, c'était, ce qui était en jeu, c'était bien plus le sort d'une voiture. Et quand tout a dérapé, vers qui se tourner? Vers qui vous vous tournez? Quand tout a dérapé. Est-ce que ce qui est beau dans ce psaume, c'est que même quand tout a dérapé pour David, et même si c'était sa faute, pour lui, Dieu était sa sécurité. Dieu est demeuré sa sécurité. Alors, vraiment, est-ce que Dieu demeure notre sécurité quand tout a dérapé? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est ce qu'on va voir. Il avait toutes les raisons d'en douter. Et on va voir que oui. Mais pourquoi il était si sûr de lui-même? Et on va voir que sa confiance était enracinée. Et on verra enfin, alors, qu'est-ce que ça change pour nos vies? Quelques applications pratiques. Donc, de cette seule erreur, pour David, c'est enclenché une cascade de malheurs. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. David, c'était le héros d'Israël. Il avait délivré son peuple des Philistins, de tous ses ennemis. Et pourtant, en une journée, imaginez la scène, il devait être dans la salle du trône en train de régner à Jérusalem, un messager arrive. Ton fils, ton troisième fils, Absalom, a gagné le cœur du peuple. Il s'est fait déclarer roi sur Hébron au son des trompettes. Et il veut venir pour ta vie. En une journée, David est forcé de déménager sans faire ses cartons, d'emmener sa famille, d'emmener ses serviteurs avec lui et de quitter Jérusalem. Le matin, il devait être dans la salle du trône en train de régner. Et le soir, il est en train de descendre la vallée qui mène au Cédron en direction de la montagne du Mont des Oliviers pour fuir et traverser le Jourdain pour sa vie. Que mes ennemis sont nombreux. La catastrophe. Son fils Absalom l'a trahi. Des milliers de serviteurs et de gens du peuple l'ont abandonné. Ses fidèles serviteurs et ses généraux l'ont abandonné. Il se retrouve trahi de tous côtés. Et on comprend pourquoi il dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Même son fidèle conseiller Achitophel, qu'il avait suivi pendant des années, a choisi plutôt son fils. Il n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite. Tout ça à cause d'une erreur. Le jour même, il était assis dans la salle du trône et le soir, on nous raconte qu'il était en train de marcher les pieds nus dans la poussière, la tête couverte, en train de pleurer. Et le peuple pleurait avec lui. Tout le peuple l'entourait. C'était la catastrophe. On lit en 2 Samuel, toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Tout cela a commencé par une erreur. Et comme nous lisons dans le premier verset, tout cela pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'avait fait David? C'est plus qu'une erreur, c'est un péché. David, une année où il aurait dû sortir travailler et aller en campagne, comme le font tous les rois, était resté chez lui. Et pendant sa période d'oisiveté, a vu une belle femme et s'est laissé avoir. Il l'a invitée à venir chez elle, il l'a forcée à venir chez elle, c'était le roi. Elle pouvait difficilement dire non. Il a eu une relation avec elle, elle est tombée enceinte. Pour cacher la chose, il a organisé le meurtre de son mari, qui était aussi en passant son compagnon de combat qu'il avait suivi pendant des années en campagne, à cause de cette seule erreur. Mais tout était caché. Pourquoi? À cause d'être sous l'erreur? Parce que Dieu l'avait vu. Et Dieu lui a dit, à cause de cela, je vais faire venir l'épée sur ta famille, sur ta maison. Et c'est à cause de cela que la catastrophe a éclaté dans sa vie, en ce jour-là. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous? Combien de nos péchés passés, de nos erreurs passées, peuvent venir nous poursuivre par la suite? Quand on parle d'une addiction, on sait qu'une addiction à l'alcool ou à la pornographie change totalement notre cerveau et le recable, si bien que même quand nous devenons chrétiens, les conséquences peuvent nous suivre pendant des années. Un jeune m'a raconté ça, il était accro à la pornographie, il voulait s'en sortir. Le pasteur qui l'accompagnait lui a dit « Tu vas avoir des séquelles pendant toute l'année, tu vas devoir faire attention pendant toute l'année. » toute ta vie. À cause d'un péché passé, même après sa repentance, les conséquences ont continué. C'est le cas dans le cas des addictions. Je connaissais un jeune qui était accro à l'alcool, qui était alcoolique. C'est pareil, aujourd'hui, c'est normal, il ne touche plus une goutte d'alcool. Les conséquences se poursuivent. Et dans la circonstance où on a une relation en dehors du mariage, avec ou pas la naissance d'un enfant, on connaît les histoires, on connaît les situations. Les choses continuent d'être des problèmes pendant longtemps. Il y a la grâce de Dieu, mais malgré cela, les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Et c'est ce qui est en train de se passer pour David. Et peut-être que ce matin, vous êtes dans une situation difficile qui a été causée par des choses que vous avez faites dans le passé. Peut-être que ça va encore durer pendant des années. Et on peut se demander, en tant que chrétien, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien ? Maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, il pourrait quand même faire quelque chose, quoi. Tout est fini, tout cela, c'est derrière moi. Il pourrait me délivrer totalement, couper totalement, peut-être reformater mon cerveau, comme ça je n'aurais pas à revenir à ces choses qui me hantent tout le temps. Il pourrait faire ça, il en est capable. Il pourrait écouter nos prières. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Mais nous l'avons vu pour David, ce qui lui arrivait n'était pas seulement laissé faire par Dieu. Dieu était à l'œuvre derrière tout ça. Voilà ce qu'il lui avait dit quand, après qu'il ait essayé de cacher cet adultère et ce péché horrible. Dieu lui avait dit, désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Pendant ce jour malheureux où David a quitté Jérusalem, il a laissé 10 concubines à Jérusalem. Et sur le conseil de son fidèle conseiller Achitophel, Absalom a couché avec chacune d'entre elles devant tout Israël. Absalom était pleinement coupable, mais Dieu était souverainement et dans ses décrets en train de punir David. Il avait décrété que nos péchés et nos erreurs ont des conséquences, et c'est comme cela. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et David avait conscience de cela. Quand il a quitté Jérusalem, il en avait conscience. Il était vraiment abandonné. On peut l'imaginer en train de descendre et de quitter Jérusalem, de descendre dans la vallée, en train de se rappeler tout ce qu'il avait fait, de se rappeler comme son adultère avec Bathsheba, le meurtre d'Uri, la mort du jeune enfant qui était né de leur union, de s'imaginer les conséquences. Son fils aîné Amnon qui a violé sa fille, sa propre fille, la fille de David, Tamar, comment le troisième frère, le frère de Tamar, a tué et assassiné son premier fils, comment toutes ces choses, jusqu'à la révolution qui se passait à ce moment-là, étaient causées à la base, étaient les conséquences de son propre péché. Quelle culpabilité! Et dans cette situation, lui comme nous, quand on sait qu'à la base, tout cela, c'est les conséquences de nos erreurs, est-ce qu'on n'a vraiment confiance pour crier à Dieu. C'est vrai, après tout, c'est moi. C'est David qui a fait cela, c'est nous qui sommes à la base les premiers coupables. Et Dieu fait tout, mais c'est notre première responsabilité. Il faut absolument garder que Absalom, je veux surtout souligner ça, est coupable. C'est sa responsabilité. Mais derrière tout ça, Dieu accomplit son décret. Nos péchés ont des conséquences. Alors que faire dans cette situation ? Quelle attitude ? Et malgré tout, on voit que qu'est-ce que fait David ? Malgré cet arrière-plan, il crie à l'Éternel. Et c'est ce psaume. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Il élève sa voix à Dieu. Et ce que lui disaient ces personnes, ils voulaient vraiment lui faire croire que pas de salut pour lui auprès de Dieu. C'était ce qu'il disait. Mais malgré tout, il loue l'Éternel. Savez-vous ce qu'il a fait quand il a remonté sur le mont des Oliviers ? Il est arrivé sur le sommet du mont des Oliviers en quittant Jérusalem. Il a fait quoi ? Il a adoré l'Éternel dans cette situation catastrophique. De la même manière que les ennemis de David voulaient le pousser à douter que Dieu pouvait l'en sortir, il disait pas de salut pour lui auprès de Dieu. Eh bien, nos ennemis, et dans ce combat qui est spirituel, l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire aussi que parce que c'est notre péché, pas de salut pour nous auprès de Dieu. Et si nous nous éloignons de Dieu et nous n'osons pas élever notre voix vers lui, même quand la tentation vient vous prendre et vous êtes tenté de revenir à ces choses et ces erreurs que vous avez faites dans le passé, et que l'ennemi vous dit « pas de salut pour toi auprès de Dieu, tu ne t'en sortiras pas, c'est tout ça, c'est ta faute », il a gagné si on l'écoute. Il a gagné si on le croit. Et c'est le plus grand des mensonges, croire, comme nos ennemis veulent le faire croire, qu'il n'y a pas de salut auprès de Dieu parce que tout est notre faute. N'en doutons pas. Ne doutez pas une seule seconde. Dieu, certes, l'accomplit. Mais avant toute chose, il est votre rocher. Et c'est ce que nous voyons dans cette deuxième partie. Oui, c'est véritablement notre sécurité. Et c'est pourquoi David crie à l'Éternel. Et peut-être que vous avez du mal à le faire, à crier à l'Éternel. Mais nous voyons dans ce psaume que si un, quand il a dérapé, c'est sa sécurité, vraiment, malgré sa confiance qui est mise à l'épreuve, c'est surtout parce que sa confiance est enracinée. Sa confiance est enracinée dans quelque chose. Et c'est la deuxième partie de ce psaume. Sa confiance est enracinée. Pourquoi ? Parce qu'il connaît Dieu. Il le connaît personnellement. Lorsque j'ai appelé mon père après mon accident et que la voiture était morte, la voiture qu'il avait qu'il avait espéré avoir pendant des années, et que je tremblais pour l'appeler, je tremblais pas tant parce que j'avais peur de sa réaction en réalité, mais à cause de l'adrénaline. Parce qu'en réalité, je savais, je connaissais mon père. Et je savais qu'il m'accueillerait, il ne me jugerait pas. Et la première chose qu'il m'a demandé, ce n'était pas comment la voiture allait. Quand je l'ai appelé, la première chose qu'il m'a demandé, c'est comment moi j'allais. Et David, dans cette situation, a la même relation. Il sait que Dieu est son père. Et le fondement de cette relation, c'est parce qu'il connaît Dieu et que Dieu le connaît. Le fondement de cette relation spéciale, c'est parce que Dieu l'avait choisi et qu'il était son roi, son oint. Et la relation spéciale qui nous unit en tant que chrétiens à Christ et à Dieu, c'est qu'il nous a choisis. À cause de cela, si on connaît notre Dieu dans cette relation et cette expérience, alors nous pourrons crier avec audace malgré le fait que notre passé vient nous hanter à cause de nos erreurs. Et on voit que dans ce psaume, David connaissait quatre choses sur Dieu. Et je vous invite, on peut et on doit progresser dans la connaissance de ces éléments sur Dieu. Pas juste dans nos têtes, premièrement dans nos têtes, mais aussi dans nos cœurs et dans nos expériences, tout comme David. Et peut-être que quand l'épreuve vient, peut-être que la raison pour laquelle nous n'osons pas crier à Dieu, la raison pour laquelle nous peut-être restons silencieux, c'est peut-être parce que nous ne le connaissons pas en profondeur. Peut-être que nos racines ne sont pas suffisamment ancrées dans qui il est, dans les réalités, les vérités que sa Bible, sa parole nous révèle. Voici quatre choses que ce passage nous révèle sur Dieu. La première chose, c'est que parce que Dieu a choisi David et parce que Dieu t'a choisi, Dieu est ton bouclier. Dieu est ton bouclier. Mais toi, Éternel, mais toi, tu es mon bouclier. Il est son bouclier de ses amis, de ses ennemis physiques et spirituels. David en est convaincu ici. Il a été délivré plein de fois. Et Dieu est le bouclier de ceux qu'il a choisis, comme il l'a dit également à Abraham en Genèse 15:1. Il lui a dit personnellement, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. » Et David sait que même si c'est la conséquence de ses erreurs, Dieu lui dit, parce qu'il l'a choisi, « Je suis ton bouclier. » Et il est également le bouclier non seulement de nos ennemis physiques et spirituels, mais également le bouclier face à nos propres péchés et leurs conséquences. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que Dieu a fait, c'est de les couvrir et de les habiller et de les couvrir. Et nous, face à notre péché, quand il vient nous hanter et qu'on voudrait nous faire croire qu'il n'y a aucun espoir, nous sommes couverts. Parce que Jésus-Christ, notre bouclier, a pris sur lui les coups à notre place et son sang a coulé. Dieu est ton bouclier. Il t'entoure par devant et par derrière. Dieu est ton bouclier. Face à la tentation, face aux conséquences, face à ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui se passera demain, il est ton bouclier et il est digne de ta confiance inconditionnelle. Deuxième chose, Dieu est ta gloire. Après tout ce que nous avons fait, peut-être que nous sommes coupables et ensevelis sous la honte. La honte de nos péchés, la honte de nos actions, la honte d'avoir fait des choses qui sont peut-être similaires à ce qu'a fait David. Il lui dit, tu es ma gloire. Malgré la honte qui caractérisait sa vie et ce qu'il avait fait, il savait que la gloire de Dieu était pour lui. Et toi aussi, peu importe ce que tu as fait, si tu es enfant de Dieu, peu importe la noirceur et l'horreur des choses que tu as faites, Dieu te dit, je suis ta gloire. Tu peux dire à Dieu, tu es ma gloire. N'est-ce pas incroyable? Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 12, il dit, ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié sur sa croix, elle sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la promesse qui vient de l'Ancien Testament qui jaillit jusque dans la Nouvelle Alliance et la vie éternelle. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera quoi? Ta splendeur. Malgré la noirceur et l'horreur et les catastrophes de ton péché, Dieu est ta gloire. On passe de la honte la plus terrible à l'honneur la plus glorieuse, celle de notre Dieu, celle d'un roi crucifié qui règne maintenant, assis dans les cieux. Quelle gloire! Il est ton bouclier, il te protège. Il est ta gloire et il est celui qui relève ta tête. Et David lui dit, et tu relèves ma tête. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. On imagine David effondré après ce qui est en train de se passer. En train de marcher, la tête basse, découragé. Plus aucun espoir. Alors qu'il écrit ce psaume, il a retrouvé de l'espoir, il a retrouvé confiance. Mais certainement qu'alors qu'il était en train de descendre, et qu'il entendait les pleurs, les lamentations autour de lui, le désespoir devait être à son comble. Et peut-être que dans la noirceur de nos difficultés, on n'a pas l'espoir. On se dit, c'est fini. Mais Dieu vient. Dieu descend et il relève ta tête. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas fini, il y a de l'espoir. C'est exactement ce qu'il a fait avec le fils prodigue. Il n'avait plus d'espoir. Le seul espoir qu'il avait, c'était de revenir en tant que serviteur. Et le père l'a accueilli. Le fils qui avait dilapidé sa fortune, son héritage, il l'a accueilli, il l'a habillé, il lui a rendu sa dignité. Et d'une situation désespérée, il a relevé sa tête. Dieu, relève ta tête aussi. Ne sois pas découragé. Il relève ta tête et surtout, il est ton roi qui, sur sa montagne, dans le ciel, là où il règne, ton roi sur sa montagne, celui qui te répond. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Tu peux ouvrir ton cœur, tu peux prier, ouvrir ton cœur devant Dieu et Dieu règne. Comment savoir que vous pouvez faire confiance à la personne à laquelle vous avez pensé au début de ce temps? Vous pouvez avoir confiance en elle parce que vous pensez qu'elle veut votre bien, elle veut vous aider et aussi parce qu'elle peut, elle en est capable. Certaines personnes le veulent bien, mais elles n'en sont pas capables. Certaines personnes le peuvent, mais elles ne le veulent pas. Mais Dieu, et David le sait, il le veut bien parce qu'il l'a choisi et il le peut parce qu'il est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Il le savait, Dieu lui avait dit, je fais alliance avec toi et un descendant sera toujours sur ton trône. Et il le savait, Dieu règne, il règne sur sa montagne. On l'a vu la semaine dernière, il est le roi qui règne. Gloire au roi, vive le roi, il règne sur sa montagne sainte. Et en tant que chrétien, Jésus, notre roi, ton roi, a été déclaré roi sur la montagne sainte. Il règne sur toute chose. et au travers du roi qui règne assis à sa droite dans le trône céleste, il entend nos prières et il les communique au Père. Il entend toutes nos prières. Dieu est ce roi qui entend tes prières et qui veut y répondre. Il a à la fois la volonté et la capacité parfaite d'y répondre. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est bon, beau, quatre choses. Il est ma gloire, il relève ma tête, il est mon bouclier, et il est le roi qui m'entend, qui répond à mes prières, mais moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie maintenant. Mais c'est bien là toute la différence de David. C'est intégré dans son cœur. C'est là, ce n'est pas juste dans sa tête, ce n'est pas juste des idées, ce n'est pas juste une théologie, c'est dans son cœur, c'est intégré à son disque dur. Pourquoi ? Parce qu'il l'a vécu des dizaines et des dizaines de fois. Dieu l'a sauvé, délivré des dizaines et des dizaines de fois. Rappelle-toi. Rappelle-toi de ton Dieu. Combien de fois il a été ta gloire ? Combien de fois il a relevé ta tête quand tu étais découragé ? Combien de fois il t'a protégé quand tu étais dans le danger ? Regardons en arrière. Si vous connaissez le Seigneur, frères et sœurs, regardez comment et ce qu'a fait Dieu. Et connaître davantage Dieu, progresser dans notre relation avec lui d'intimité, c'est connaître ces choses et regarder en arrière, les saisir et les chérir avec profondeur. Oui, quand tout a dérapé, Dieu reste ta sécurité, vraiment. Et oui, pourquoi ? Parce que ta confiance est fondée dans ce Dieu, ton roi que tu connais. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça change ce soir quand tu vas peut-être rentrer chez toi avec les soucis d'un mariage qui est en galère, ou avec la galère des enfants, ou alors les études, ou alors un avenir incertain, ou alors un péché, une addiction qui ne cesse de te hanter ? Qu'est-ce que ça change ? Et alors, notre confiance en ce Dieu-là, elle est appliquée, elle est expérimentée. Quand j'ai dérapé, Dieu reste ma sécurité, ça se vit vraiment. Et j'aimerais juste prendre deux applications, deux conséquences directes que l'on voit dans ce psaume. La première, c'est un cœur apaisé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui luttent avec des difficultés de sommeil. Moi, personnellement, ça m'arrive d'avoir du mal à trouver le sommeil, ou j'ai un sommeil assez léger. Mais quand on connaît Dieu et que l'anxiété voudrait nous priver de sommeil, on réalise, si on le connaît de plus en plus, que sa souveraineté englobe tout et qu'il tient tout dans sa main et qu'en réalité, rien n'échappe à son contrôle. Il écrit, David, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Pour beaucoup d'entre nous, c'est une grâce dont on bénéficie tous les jours, sans aucun problème. Et pour laquelle on devrait être reconnaissant tous les matins. Traditionnellement, le psaume 3 et le psaume 4 étaient les psaumes du soir et du matin. Les gens les prenaient pour prier le soir et pour prier le matin. Et quand on lit et comprend ce psaume le soir, on peut se dire effectivement, mes soucis, comparés à ceux que David a à cette époque-là, sont quand même bien petits. Et Dieu est quand même celui qui nous permet de nous coucher, nous endormir et de nous réveiller. Beaucoup s'endorment et ne se réveillent jamais. Mais si on se réveille, c'est parce que Dieu l'a voulu et il nous soutient. Il nous soutient. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand on est face à des tempêtes, face à des tentations et que c'est les soucis qui nous empêchent de trouver le sommeil, comme David ici, certainement que quand il a écrit ces lignes, il ne dormait pas si bien que ça. Peut-être que c'était le soir. On sait qu'ils ont traversé Jérusalem, ils ont traversé le Jourdain le soir même pour essayer de fuir à Absalom et à Achitophel qui voulaient les tuer le soir même, donc certainement qu'ils ont passé la nuit à traverser le Jourdain, mais il s'appuie ici sur son expérience passée. Combien de fois Dieu l'a soutenu pendant son sommeil ? Et il avait connu des expériences où son prédécesseur, le roi Saül, était livré devant lui, en train de dormir, et il aurait pu le tuer. Il sait que notre vie, elle ne dépend que d'un fil, et il peut la livrer à n'importe qui, à n'importe quel moment, quand il le veut. Il le savait que tout dépend de lui. Mais ici, quand on se retrouve à se retourner la nuit, à ne pas réussir à trouver le sommeil parce qu'on est assailli par des doutes, des questions, des stress, quand on a réalisé et qu'on est enraciné dans ce que, les quatre points que nous avons eus, parce qu'on les connaît, mais aussi parce qu'on les a expérimentés, ça nous aide à trouver le sommeil. Et cette semaine, alors que je préparais ce message, ce psaume m'a aidé à trouver le sommeil. Quand j'étais en train de me retourner dans mon lit, en train de réfléchir aux choses à faire, aux conséquences, aux difficultés, et que je pouvais mettre ces choses en relation, en rapport avec ce psaume et le Dieu qui règne, qui est souverain, et que je pouvais réciter ce psaume. Oh mon Dieu, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de sujet pour lui, auprès de Dieu, toutes ces choses qui m'assaillent. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je crie à pleine voix et l'Éternel me répond de sa montagne sainte. Tu sais, oui, tu l'as fait. Je réfléchis, je me rappelle de tout ce que Dieu a fait. Je m'en rappelle, oui, Dieu l'a fait et Dieu le fait. On peut prendre un psaume comme ça et alors que nous voulons réfléchir à toutes ces choses dans nos têtes le soir qui nous empêchent de dormir, on peut à la place réciter ça et nous rappeler à quel point ce Dieu est grand. Relisons ce psaume, apprenons ce psaume. Si vous avez des problèmes de sommeil à cause de vos anxiétés, je vous encourage à vous rappeler, au travers de ce psaume, de quel point ce Dieu est grand. Et la deuxième application très concrète, c'est ce psaume en tant que tel, c'est la prière. On voit qu'il élève la voix de sa confiance enracinée dans ce Dieu qui est sa gloire, son bouclier, qui relève sa tête, qui entend sa prière, il parle. Il parle de sa voix, à voix haute. Et on a vu que Anne a prié dans silencieusement et que Dieu a entendu sa prière. Mais quelque part, Dieu entend aussi. Et c'est pour moi personnellement plus facile de prier à voix haute. J'arrive à me concentrer plus facilement et à ouvrir mon cœur plus facilement à Dieu quand je prie à voix haute. Il prie à voix haute. Prions à voix haute. Il prie pas dans un lieu particulier, il a quitté Jérusalem. Dieu n'est plus là, enfin le temple n'est plus là, l'arche n'est plus là, mais malgré cela, il est dans la fuite, il est dans un lieu où il a les pieds dans la poussière, il a la tête couverte, il peut élever, il trouve un chemin vers le ciel, dans la situation la plus catastrophique et dans le lieu le plus sombre et malpropre. Une simple prière peut quand même ouvrir le ciel et le Dieu qui est sur sa montagne sainte peut descendre et répondre à cette prière. Il n'y a pas de lieu particulier. À voix haute, pas de lieu particulier. Et ces problèmes le poussent à prier. Ne laissons pas nos problèmes nous empêcher de prier. Les problèmes de David le poussent et le mettent sur ses genoux. Il ouvre son cœur à Dieu. Il élève son cœur et sa voix vers Dieu en même temps, malgré la catastrophe. Ne laisse pas tes problèmes t'empêcher de prier. Au contraire, qu'ils puissent te pousser dans les bras de Dieu, lui ouvrir ton cœur, et que celui qui est ton bouclier, qui relève ta tête, va venir et te supporter. Et enfin, il prie avec audace, fier de toutes ces choses, une fois qu'il a réalisé toutes ces vérités, une fois qu'il a retrouvé la paix et la confiance, et une fois qu'il a ouvert la bouche, il prie avec audace. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Verset 7. Et il est assuré de pouvoir gagner. C'est une assurance. On le voit dans les derniers versets. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Cette expression est violente. Tu brises les dents des méchants. Mais ça, c'est la vraie vie. La guerre, c'est pas joli. Je suis passé ce matin dans la voiture, j'ai vu la liste de toutes les personnes fusillées par les nazis. C'était ça qui était écrit. À toutes les personnes fusillées par les nazis, avec la liste. Et la guerre, c'est ça, c'est la mort. Et quand David écrit ces lignes, il se rappelle tous ses ennemis qui, effectivement, sont morts de manière brutale, parce que Dieu l'a protégé. C'est bien la première chose à laquelle on peut penser. Dieu protège, et mieux vaut ne pas tomber entre les mains de Dieu et être contre lui et son peuple. Cela nous fait aussi penser à toutes ces bêtes féroces, dont on décrit parfois les ennemis de Dieu, et ces bêtes féroces, Dieu leur brise la mâchoire, afin qu'ils ne puissent pas mordre. c'est également un clin d'œil à ces personnes qui parlaient et qui voulaient faire croire, David, que Dieu ne le sauverait pas, qui l'insultaient. On pense au conseiller d'Achitophel qui voulait le tuer le soir même, à Chimée qui lui lançait des pierres et qui le maudissait alors qu'il fuyait Jérusalem. La mâchoire et les de ceux qui se moquaient de lui sont brisées. C'est la première façon de lire cette chose, et elle est vraie. Physiquement, Dieu, quand il délivre son peuple de ses ennemis, c'est pas beau à voir. Oui. La deuxième chose qu'il est important de dire, c'est que les ennemis de David sont aussi les ennemis de Dieu lui-même. Parce que David est le représentant, c'est le médiateur de Dieu. Et s'attaquer à David, c'est s'attaquer à ce que Dieu a décidé, c'est s'attaquer à son peuple. En fin de compte, en défiant David, il défie le roi des rois. Il défie le roi d'Israël. Et enfin, il est important de noter que c'est également une stylisation d'une guerre sainte entre Dieu et ses ennemis. Dieu est engagé contre une bataille qu'il est sûr de gagner et qu'il a remportée à la croix, contre des forces spirituelles. Et dans cette guerre cosmique et spirituelle, avec ses ennemis, et ils existent, qui veulent nous faire douter et qui font tout pour nous couper de notre relation avec Dieu, notamment nous faire douter à cause de notre péché, comme avec David, Dieu est absolument... Pas de pitié. Pas de pitié pour les ennemis de Dieu. Et laissez-moi vous dire que pour ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu, ils font partie des ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Et chacun d'entre nous, à la base, on est ennemi de Dieu. Et le sort qui attend les méchants, c'est notre sort. L'occasion de remercier le Seigneur pour la grâce en Jésus-Christ qui nous délivre de ce sort. Et de penser et prier pour ceux qui sont encore exposés à ce sort. Et si vous y êtes exposés, je vous en prie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Quelle sorte terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Nous lisons dans Hébreux 11. Oui, à la fin, les ennemis de Dieu seront brisés par sa colère. Verset 8, le salut appartient à l'Éternel, et je me dirige vers la conclusion. Oui, le salut appartient à l'Éternel. Si on regarde le plan global de ce que nous venons de lire, David a péché, Dieu a envoyé la punition, et Dieu va délivrer son serviteur David de sa punition. Et c'est exactement ce qu'il fait avec nous et ce qu'il fait avec l'humanité depuis le début. L'homme a péché. Dieu a décrété que le péché avait ses conséquences et il a envoyé Jésus pour nous sauver. Tu as péché. Dieu est en colère contre toi. Les conséquences sont là, mais il te délivre de sa propre colère. C'est ce que nous dit John Stott de cette manière-là. Et je vous lis, selon la révélation chrétienne, c'est Dieu qui fait tout pour nous sauver. C'est son saint amour qui nous a rendus propices devant sa sainte colère à notre égard, au travers du don de son cher Fils, qui a pris notre place, a porté nos péchés et est mort pour notre mort, à notre place. Dieu se donne lui-même pour nous sauver de lui-même et de sa propre colère. Oui, à la base, on est ennemi de Dieu. Et si on peut actuellement avoir cette espérance que même quand tout a dérapé, que c'est notre faute, Dieu est notre sécurité, c'est parce que Dieu nous sauve de lui-même et des conséquences de notre péché. Que sa bénédiction soit sur son peuple. Ce psaume se termine comme ça. Sa bénédiction est sur son peuple, sa promesse. Parce que David a été choisi, il fait partie de son peuple. Et parce que nous avons été choisis chrétiens, nous, et que nous l'avons choisi en retour, nous faisons partie de son peuple. Et nous pouvons nous encourager les uns les autres, même quand tout a dérapé, à nous rappeler que Dieu est notre sécurité. Alors je conclus. Parfois même, nos plus proches parents nous abandonnent. Les personnes avec lesquelles on avait plus de confiance. Quand tout s'écroule autour de nous et que c'est nous qui avons vraiment tout fait foirer, capoter, ils nous abandonnent. Mais Dieu, même quand c'est moi qui ai dérapé, reste ma sécurité, ce bouclier qui vient nous délivrer. Est-ce que Dieu veut te sauver, veut me sauver, même si on est à l'origine de notre propre galère ? Oui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Est-ce que Dieu veut me sauver, même si c'est lui qui a ordonné dans ses décrets que les conséquences de mon péché m'arrivent ? Oui, parce qu'il veut te sauver de sa propre colère, parce qu'il t'aime. Alors, comme David, connaissons l'Éternel au point de ne pas douter de son secours. En l'étudiant, en l'aimant, en ayant cette relation avec lui, en vivant, en se rappelant ce qu'il a fait. Il est plus fidèle que n'importe quel père, plus aimant que n'importe quelle maman et plus puissant que n'importe quel roi. Et tu es son enfant. Même quand j'ai dérapé, Dieu est ma sécurité. Et quelle sécurité ! Je prie pour conclure. Merci Seigneur, car tu es ma sécurité. Seigneur, tu sais à quel point et combien de fois j'ai dérapé, combien de fois c'était vraiment le péché contre toi et les conséquences encore aujourd'hui dans ma vie et dans la vie de chacun d'entre nous, de nos erreurs passées, de nos péchés. Seigneur, mais quelle grâce ! Tu pourrais tout enlever d'un coup, tu pourrais nous libérer d'un coup, mais tu veux que dans nos difficultés, nous puissions nous approcher de toi et grandir notre relation avec toi, dans notre confiance en toi. Mon Dieu, je prie que nous puissions ne pas, face à nos difficultés, couper la relation, fuir de l'autre côté, mais que nous puissions au contraire être sur nos genoux et nous rapprocher de toi et nous accrocher à toi et à tes promesses, à ce que nous savons de toi, te connaître plus, afin que même quand une erreur passée entraîne une cascade de malheurs, on puisse vraiment s'accrocher à toi et être fortifié. Merci d'être notre roi, merci d'être notre bouclier, notre gloire, merci d'être celui qui relève notre tête et qui entend nos prières. À toi la gloire, Père. Tu es si grand. Amen.